Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à Rino Della Negra, un footballeur, un résistant. Rino Della Negra est né le 18 août 1923 à Vimy, dans le Pas-de-Calais, de parents italiens naturalisés en 1938. Son père, né en 1898, est briquetier, originaire d'Oudine, dans le Frioul. La famille s'installe en 1926 dans la région parisienne, à Argenteuil, dans le quartier Mazagran, rebaptisé Mazagrande par son importante communauté italienne. En 1937, Rino Della Negra travaille comme apprenti ajusteur à l'usine Chausson, d'Asnières-sur-Seine. Issu d'une famille d'immigrés italiens, Rino Della Negra s'est vite fait remarquer balle au pied. Virevoltant ailier, il a surtout évolué dans le club d'Argenteuil. Ses dribbles, ses courses, son inépuisable énergie, sa vitesse, il courait le 100 mètres en 11 secondes, lui ont conféré une jolie notoriété qui l'a porté à rejoindre le prestigieux club de Saint-Ouen, le Restart. Il a disputé 5 rencontres sous le maillot audonien à l'automne 1943. Difficilement arrêtable sur le terrain, Rino Della Negra l'était aussi en dehors. Réfractaire au service du travail obligatoire, le STO, il rejoint les rangs de la résistance sous le pseudonyme de Châtel-Robin. Il rejoint le 3e détachement italien des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre émigrée, la MOI, de la région parisienne, commandée par Missak Manoukian. Le 7 juin 1943, il participe à l'exécution du général Von Haupt aux 4 rue Maspero. Le 10 juin, il attaque le siège central du parti fasciste italien, rue Cedillo. Le 23 juin 1943, il attaque la caserne Guynemer, à Rueil-Malmaison. Le 12 novembre 1943, au 56 rue de Lafayette, il attaque, avec son collègue Robert Witschit, des convoyeurs de fonds allemands. Mais c'est un échec. Il est blessé et ils sont arrêtés. À plusieurs reprises, cet ailier a joué du revolver pour abattre des soldats allemands dans les rues de communes franciliennes. C'est même assez incroyable que la police de Vichy, qui était redoutable, ne l'a pas identifié rapidement, contrairement à d'autres résistants. Il est longtemps passé à travers les mailles du filet. Ni ses coéquipiers, ni sa famille ne connaîtront la double vie du jeune homme. Résistant la nuit, footballeur le jour. Il sera arrêté, torturé et sera finalement exécuté à 20 ans, le 21 février 1944 au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine, avec ses compagnons résistants du réseau FTP MOI. Mais il ne figure pas pour autant sur la fameuse affiche rouge. On considérait probablement qu'il est trop bel homme pour représenter des soi-disant terroristes sanglants. Torturé pendant des semaines, il aurait été tellement défiguré qu'il n'aurait pas été reconnaissable sur la fameuse affiche. L'histoire de ce résistant footballeur aurait pu s'arrêter là. Mais une poignée de supporters du Restart ont baptisé une tribune au nom du jeune martyr de la résistance. Ils sont une centaine, mais sont très actifs pour encourager leur club chéri, mais aussi pour rappeler les valeurs de Rino. Lorsqu'on achète une écharpe de la tribune Rino Della Negra, ils prennent le temps d'expliquer le parcours de Rino. Et c'est très touchant. Figure emblématique du club, le Restart, sa mémoire est donc régulièrement honorée par les supporters du Restart, qui ont notamment installé une stèle commémorative à l'entrée du stade. La tribune première est du Stade Bauer, où se tiennent les supporters les plus fervents du club, est appelée Tribune Rino Della Negra. Un chant de supporters cite d'ailleurs son nom. Nous sommes les Restart fans. On vient de la banlieue rouge et la rhino s'enflamme, toujours pour l'étoile rouge. Désormais détenu par un fonds d'investissement américain, le club audonien, qui évolue en Ligue 2, semble faire peu de cas de ce joueur au parcours exemplaire. Dans la lettre qu'il a adressée à quelques heures de son exécution, à son frère, Rhino écrit « Envoie le bonjour et l'adieu à tout le Restar ». Le 21 février 2024, il est cité mort pour la France, ainsi que ses 23 autres camarades avec l'entrée de Missak et de Méliné Manoukian lors de la cérémonie de panthéonisation en présence d'Emmanuel Macron, président de la République française. Une plaque portant son nom et ceux des 23 résistants du groupe Manoukian est apposée au Panthéon. Son portrait figure avec les autres camarades du groupe des FTP Moy de l'Île-de-France. Nous terminerons par un autre résistant footballeur, Étienne Matler, capitaine du FC Sochaux et défenseur emblématique de l'équipe de France, qui est aussi un héros de la résistance. Retour sur son parcours. Né à Belfort en 1905, il débute une carrière sportive variée avant de se tourner vers le football, où il devient un défenseur hors pair. À 16 ans, il joue déjà dans l'équipe première de l'US Belfort. Son parcours le mène rapidement à l'AS Strasbourg, puis au FC Sochaux en 1929, où il s'impose comme capitaine. Sa puissance physique, 1m82, 85 kg, et son engagement sur le terrain font de lui une légende du football français des années 1930. En 1930, Étienne Matler rejoint l'équipe de France et participe aux trois premières Coupes du Monde en 1930, 1934 et 1938. Avec son club, il remporte le championnat de France et la Coupe de France, s'imposant comme un pilier de l'équipe, surnommé le balayeur par sa capacité à repousser les attaquants adverses. En 1938, la presse lui attribue le surnom de l'Imaginot, en référence à la défense implacable qu'il formait avec ses coéquipiers. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Matler se distingue par son engagement. Mobilisé, il participe à la résistance, fournissant des informations aux alliés et cachant des armes. En 1944, il est arrêté par la Gestapo et torturé, mais il ne cède pas. Après sa libération, il rejoint l'armée du général Delatte de Tassigny et participe à la libération de Belfort. Son courage et son patriotisme vont bien au-delà du terrain de football. Après la guerre, Matler retourne au football. Mais la situation du FC Sochaux a changé. En 1945, l'équipe descend en seconde division, marquant l'enfin de sa carrière en tant que joueur de haut niveau. Il se reconvertit brièvement comme entraîneur-joueur avant de devenir propriétaire d'un bar-tabac à Belfort.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.